merci d'avoir fait le choix de la fréquence de CFM Radio. Vous écoutez le carnet de correspondance émission qui s'intéresse aux questions d'ordre pédagogique, de l'éducation nationale aussi. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une généralité, on va dire ça comme ça. Parce qu'ils peuvent être généraux, technologiques ou professionnels avec tous un objectif similaire, l'instruction, pour ne pas dire l'éducation de chacun d'entre nous, hein, pour notre épanouissement intellectuel. Et en second lieu, pour moi, je dirais ça ainsi, on va dire, nous fixer et nous donner des bases pour une vie professionnelle ultérieure. Ce sont, oui, mesdames et messieurs, les établissements scolaires auxquels nous allons nous intéresser aujourd'hui avec Jean-Marc Robin. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jack.
Jean-Marc Robin, toi tu es chef d'établissement, hein, le collège Valcérou de Cordes-sur-Ciel. On reviendra sur les particularités de cet établissement-là, mais on va déjà commencer un peu par des généralités. Parce que quand on dit établissement scolaire, ça révèle quand même plusieurs types d'établissements pour me répéter. Est-ce qu'on peut déjà un peu expliquer quels sont les différents types d'établissements scolaires ?
Oui, il faut être capable de bien les distinguer. Alors, d'abord, on a les collèges, hein, que tout le monde connaît, hein, qui scolarisent les élèves de 11 à 15 ans. Là, l'objectif d'un collège, c'est de former les citoyens et la poursuite d'études. Nous, on appelle ça former les élèves au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc, c'est une espèce de bagage minimum, hein, pour s'intégrer dans la vie sociale et puis surtout pour poursuivre des études en lycée. Donc, à côté des collèges qui scolarisent donc des jeunes de 11 à 15 ans, tu as les lycées professionnels. Alors, lycées professionnels, j'y reviendrai tout à l'heure. Hein,
on qui sont dans l'actualité d'ailleurs.
Voilà, et qui sont dans l'actualité. Mmh. Hein. Donc là, on est sur une classe d'âge un peu différente, hein, de 15 ans à 18 ans. 20 ans parfois, parce que tu as des élèves qui ont parfois des parcours scolaires un peu chaotiques, hein, qui ont parfois un peu redoublé. Et puis après, on a les lycées généraux et technologiques, hein, qui scolarisent des élèves de 15 à 20, voire 22 ans. Hein, parce que les lycées proposent souvent des parcours post-bac, par exemple des brevets pour faire un BTS, un brevet de technicien supérieur, ou bien certains lycées, hein, ont des classes préparatoires. Alors, s'agissant des établissements scolaires, ce qu'on doit dire, hein, c'est que la première mission, c'est former le citoyen. Qu'on soit au collège, au lycée professionnel, au lycée général, hein, c'est l'école de la République. L'objectif, c'est de former des citoyens éclairés qui soient capables de faire des choix, de participer à la vie démocratique, de s'intégrer dans cette vie sociale et démocratique. S'agissant des lycées professionnels, alors les lycées professionnels, ils ont une finalité un peu tournée vers l'économie. Hein, il ne faut pas perdre de vue qu'un lycée professionnel, sa première mission... C'était le cas notamment lorsqu'on a créé le bac professionnel en 85, c'est de faire en sorte qu'après le bac, les élèves puissent trouver du boulot sur le marché de l'emploi. Hein. Alors les lycées professionnels, ils forment qui ? Ils forment des ouvriers qualifiés ou des employés qualifiés. Donc des gens qui ont une qualification, ils forment aussi des gens qui vont être des futurs artisans, et puis certains d'entre eux qui vont pouvoir après devenir des chefs d'entreprise. Les lycées professionnels, on ne le sait pas, en fait, ils s'organisent autour des secteurs de l'économie. Hein, tu as trois secteurs d'économie qu'on connaît bien. L'agriculture, donc c'est pour ça que tu as des lycées professionnels dans le domaine agricole.
Agricole, ouais.
Voilà. Ici, dans la région, c'est le lycée Fonds-Labour, hein, qui propose des formations, ouais. Horticulture, agriculteur, etc. Tu as après des lycées qui sont tournés vers l'industrie. Je pense par exemple ici sur Albi, le lycée Rascol. Alors là, tu vas trouver plein de formations du type électronique, maintenance des véhicules automobiles, carrosserie, système numérique. Enfin, on est autour de l'industrie. Mmh. On travaille pour l'industrie, donc là, on va former des ouvriers de type industriel. Et puis après, tu as des lycées professionnels qui sont tournés vers les métiers de service, ce qu'on appelle le secteur tertiaire. Donc ici, par exemple, c'est le lycée Toulouse-Lautrec, à Albi, qui va proposer de la formation dans, par exemple, ça peut être la petite restauration, ça peut être aussi le soin, ça peut être la vente, ça peut être l'accueil, tout un tas de formations. Donc, concrètement, un lycée professionnel, son objectif, au départ, c'est de proposer une formation pour que les élèves puissent trouver rapidement un emploi.
Un boulot derrière.
Voilà. Ouais. Après, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, hein, les emplois sont de plus en plus qualifiés. Donc, on souhaite monter le niveau de formation de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on propose aux élèves qui sont peut-être les plus solides sur le plan scolaire, mais aussi les plus motivés, de poursuivre leurs études en faisant un BTS, un brevet de technicien supérieur. Alors concrètement, les élèves de lycée professionnel, ils peuvent candidater sur des BTS. Et ce qui est bien, et je l'avais déjà dit ici, c'est que des places leur sont réservées. Hein, quand tu fais un bac pro, en fait, si tu veux aller au lycée Rascol, concrètement...
C'est un peu prioritaire, quoi.
Voilà, concrètement, au lycée Rascol, 40%, voire même plus de 40% des places de brevet de technicien supérieur sont réservées pour des élèves de bac pro. Ils ne sont, donc ces élèves ne sont pas en concurrence avec des élèves qui viendraient de la filière générale ou technologique. Mmh. Donc ça, c'est bien. Donc les élèves, concrètement, du lycée professionnel, donc, soit concrètement, ils vont sur le marché de l'emploi, avec de bonnes chances d'insertion professionnelle. Alors, il faut être un peu mobile, hein. Ça dépend un petit peu aussi du secteur. Soit ils peuvent poursuivre leurs études et faire un BTS. S'agissant des lycées généraux et technologiques, là, l'objectif, c'est pas de trouver du boulot. Là, l'objectif, c'est de bien s'armer pour les études supérieures. Et on envisage plutôt un boulot de type, un emploi de type technicien, c'est-à-dire de faire un bac plus 2 ou un bac plus 3, ou bien de poursuivre des études plus longtemps, en faisant un master pour devenir, par exemple, un expert ou un cadre. Mmh. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les lycées professionnels vont former les ouvriers, les employés qualifiés, les artisans, alors que les lycées généraux technologiques vont former finalement le bataillon des futurs techniciens ou des futurs cadres. Mmh. Donc évidemment, c'est pas les mêmes compétences qu'on attend et c'est pas les mêmes parcours.
Et puis c'est pas le même rythme aussi, que ce soit dans un lycée professionnel, un lycée général ou technologique. Le rythme, là, je parle plutôt du cursus scolaire, n'est pas le même non plus.
Absolument, c'est-à-dire que dans un lycée professionnel, et ça c'est ça qui est très intéressant, et ça plaît beaucoup aux élèves, hein, il y a un tiers des élèves, hein, de collège qui vont aller en lycée professionnel, ils vont avoir une formation académique, histoire français, histoire, géographie, je l'ai dit, français, anglais, etc. Ils vont avoir aussi des formations en atelier. Après, ça dépend, hein, de ce qu'ils font. Par exemple, s'ils font de la coiffure, ils vont apprendre à coiffer. Et puis après, à côté de ça, ils vont faire des périodes de formation d'entreprise qui sont importantes, hein, puisque de la classe de seconde à la classe de terminale, c'est 22 semaines de stage. Alors, tu sais qu'en ce moment, avec la question de la réforme des lycées professionnels, le président a souhaité qu'on augmente, hein, cette durée de formation. Ça fait l'objet de débats, c'est pas encore tout à fait tranché. Alors, ce qui va être nouveau, alors ça, c'est une décision qui a été prise, c'est que on va rémunérer maintenant, gratifier.
Une petite gratification.
Alors, ce sera pas payé par les entreprises, ce sera payé par l'État, par l'école, donc à hauteur de 50 € par semaine de stage pour les élèves de seconde, 75 € pour les élèves de première et 100 € pour les élèves de terminale. Alors, c'est un élément de motivation, mais c'est aussi un élément, je dirais, un peu de justice sociale, parce que souvent, on le sait, hein, les élèves, le président de la République l'a souligné aussi, hein, et tous les ministres l'ont fait du reste, hein, les élèves du lycée professionnel sont très majoritairement issus de milieux plus populaires, moins favorisés sur le plan économique, et on sait que cette petite gratification qui pourrait paraître un peu symbolique, ça peut permettre pour certains d'avoir un peu d'argent de poche, de mettre un peu d'argent dans la voiture ou dans la mobylette. Voilà, donc une petite gratification.
Mais est-ce que ça ne va pas créer une espèce de jalousie avec les autres? Parce que là, cette histoire de lycée professionnel, ou en tout cas l'accent qui est mis dessus actuellement, j'avoue que moi, j'étais un peu halluciné de voir ça, parce que bon, on le sait, hein, l'éducation nationale dans son ensemble vit une crise majeure à différents niveaux. Mais est-ce que toi, tu as compris pourquoi cet accent a été mis là comme ça par le président de la République sur le lycée professionnel?
Non, l'idée, c'est vraiment de valoriser la filière professionnelle, hein, c'est-à-dire de faire en sorte de renouer avec une certaine attractivité. Là, il ne s'agit pas, bien sûr, de stimuler les élèves en disant « Venez au lycée professionnel, vous serez rémunérés.
Ouais, » ouais,
parce qu'un élève qui veut vraiment gagner de l'argent, il va faire quoi? Il va faire un apprentissage. Il ne gagnera pas, dans ce cas-là, 50 € par semaine. Il va gagner 300 ou 400 €, voire un petit peu plus, en fonction de son âge. Là, l'idée, c'est de reconnaître qu'il y a un travail et de soutenir la motivation des élèves. Voilà. Donc, c'est une motivation, on a déjà parlé ici, hein. Dans la motivation, tu as toujours deux éléments. Tu as un premier élément qui est le cursus lui-même, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, hein. Et puis, petite gratification, je dirais que c'est un peu comme une bonne note, hein. Voilà. Donc, bon, pour moi, alors c'est vrai que ça fait l'objet de débats, je ne vois pas trop pourquoi on s'enflamme par rapport à ça. Bon, si c'est un peu de reconnaissance pour les élèves. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun élève qui va se dire « Allez, je vais faire la voie professionnelle pour gagner 50 € par semaine de stage. » Rappelons que classe de seconde, ça va faire 6 semaines de stage, donc tu vois, ça va faire 300 € sur l'année. Tu ne vas pas t'enrichir. Donc voilà.
Mais toujours est-il que c'est quand même gratifiant de voir la reconnaissance qu'on apporte aujourd'hui au lycée professionnel.
Oui.
Parce que pendant plein d'années, hein, le lycée professionnel, c'était plutôt la voie de garage de tout ce qu'on imaginait.
Mais tu sais qu'en fait, le lycée professionnel, on n'en parlait pas. Non, en vérité, on n'en parlait pas. Par exemple, si tu cherches des travaux, tu sais, moi, je te l'ai dit, hein, je suis sociologue de l'éducation, si tu cherches des travaux sur le lycée professionnel, t'en trouves pas. Tu as 2-3 auteurs qui ont écrit des bouquins qui sont un peu vieux sur le lycée professionnel, tu trouves pas. C'est-à-dire que ça, je dirais presque que ça intéresse personne, y compris chez les chercheurs.
Et pourtant, ça forme beaucoup de gens.
Et pourtant, voilà. En revanche, tu cherches des travaux sur l'université, sur les classes préparatoires, sur le collège et le lycée, tu vas en trouver pléthore. Donc, à chaque fois qu'on a un segment un peu dominé de l'école, sur le plan symbolique, tu t'aperçois que, y compris les chercheurs, se désinvestissent de ça. Donc, ça traduit bien aussi que nous, notre rapport au lycée professionnel, il est un peu ambigu. Hein. Tout le monde flatte l'enseignement professionnel, mais en vérité, on le met pas à l'honneur. Et donc, moi, je trouve que mettre en place une réforme, alors après, on peut discuter de la réforme, hein, ça, je respecte le point de vue de chacun, mais reparler du lycée professionnel, dire que c'est une voie d'avenir, dire que ça va redonner un coup de fouet pour notre industrie, pour notre économie, avec des enjeux considérables, hein. On sait très bien ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'emplois qui se sont délocalisés, qu'on a perdus. Et on a bien vu dans quelle situation ça mettait la France dépendance vis-à-vis. Voilà, donc il y a un enjeu économique. Et ce sont souvent des beaux emplois aussi. Parce que par exemple, l'industrie, c'est pas le 19e siècle. L'industrie, aujourd'hui, les entreprises, elles sont propres. La charge de travail, elle a été. Il y a beaucoup d'ergonomes qui ont réfléchi sur les postes de travail, il y a une reconnaissance, tu as des carrières que tu peux faire. Franchement, quand tu vois l'industrie aéronautique, ça fait un peu rêver, quoi. Hein, tu peux faire une vraie carrière. Et quand on parle du lycée professionnel, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de métiers formidables autour de la restauration, autour du commerce. Enfin, ça peut être de vrais beaux métiers. Et parfois, du reste, hein, faut le souligner, tu vas bien mieux gagner ta vie en étant un bon artisan ou un bon professionnel d'industrie que si tu travailles, par exemple, dans un bureau. Hein.
Et souvent, plus rapidement, ils sont autonomes d'ailleurs. Et on n'a pas assez parlé, en tout cas souligné, les passerelles qui sont possibles, parce que là, on a fait une présentation, on va dire, très théorique, hein, des différents types d'établissements scolaires et ce à quoi ils donnent droit derrière. Hein. Donc, tu nous as rappelé que les lycées professionnels, c'est pour des boulots plutôt d'ouvriers, d'employés qualifiés, hein. De futurs artisans. En lycée général et technologique, là, ce sont des techniciens ou des futurs cadres qui espèrent même peut-être poursuivre après en école d'ingénieur ou à l'université. Mais quelle que soit la filière que l'on choisit, c'est la motivation et l'envie que l'on a qui peut nous pousser aussi à poursuivre jusqu'à un doctorat ou que sais-je. C'est pas parce qu'on est passé par un lycée professionnel qu'on peut pas poursuivre après.
Absolument, tu peux avoir. Moi, j'ai travaillé au lycée Rascol à Albi, hein, qui est un gros lycée. On avait des élèves qui venaient de la filière professionnelle et qui après avoir fait carrosserie, par exemple. Alors ça, c'est un parcours très atypique, hein, que je souligne ici. Vont faire de l'informatique et puis après de développer des compétences. Et puis après, ce sont des gens qui vont pouvoir faire, par exemple, après la classe de BTS, il y a une classe qui s'appelle ATS, adaptation technicien supérieur. C'est une classe prépa en un an, qui te permet après de préparer des écoles d'ingé. Donc tu as quelques élèves, alors c'est pas des milliers d'élèves, on est d'accord, mais très bons élèves, de voie pro, ils peuvent après devenir ingénieurs, etc. Donc moi je trouve que ce zoom sur le lycée professionnel, ça me paraît tout à fait important. Je veux dire, après à chacun ici hein, d'avoir un point de vue, hein, c'est toujours... concrètement, si on regarde un petit peu le débat actuel, tu as deux oppositions, tu as une opposition... T'as une approche que je vais qualifier de pragmatique derrière le président de la République et le ministre qui consiste à dire, bon, il faut essayer d'adapter le lycée professionnel aux besoins des territoires, de l'économie, trouver que l'insertion professionnelle, ce soit vraiment un véritable enjeu. Et puis, t'as ceux qui ont une conception, je dirais, moins adéquationniste, en tout cas, qui considèrent que sur le long terme, il faut former les jeunes. Et puis après, faut pas forcément placer au cœur la finalité de trouver un boulot tout de suite. Voilà. Alors, ce débat, honnêtement, on peut pas le trancher. Tout le monde a raison. Je veux dire, à court terme, c'est bien de s'adapter au territoire, mais sur le long terme, c'est les compétences qu'il faut veiller à développer chez les jeunes, parce que quels seront les emplois de demain dans 20, 30 ans? Qui peut le dire? Personne ne peut le dire. Donc, je dirais, les deux parties ont un peu raison. Après, il faut aussi, et ça, c'est le rôle des partenaires sociaux, hein, savoir trouver des compromis. Mais je trouve que c'est intéressant de mettre ce coup de projecteur sur l'essai professionnel et surtout en essayant de réfléchir sur les formations de demain. En adaptant aussi aux besoins des territoires et puis aussi aux envies des jeunes aussi. Hein.
les établissements scolaires au menu du carnet de correspondance aujourd'hui sur CFM Radio en compagnie de Jean-Marc Robin, le principal du collège Valcérou de Cordes-sur-Ciel. On écoute un mot nouveau, c'est Feu Chatterton, et ensuite on va s'intéresser au fonctionnement des établissements scolaires et puis on va filer et glisser quelques astuces sur qu'est-ce que c'est qu'un bon établissement, qu'il soit
ça,
un
c'est
collège
la, la
ou un
question
bon
de
lycée.
Tous les parents, comment on fait pour repérer le bon collège, le bon lycée?
On écoute Feu
Chatterton. On va donner quelques pistes.
On écoute Feu Chatterton, on se retrouve juste après Monde Nouveau.
Le monde de demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien, à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Et les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêve tous. Mais que savions-nous faire de monde nouveau, on en rêve tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attrapez-le tout.
Chatterton sur CFM Radio, le carnet de correspondance, la suite, toujours en compagnie de Jean-Marc Robin. On s'intéresse aux établissements scolaires. Après avoir vu quels sont les différents types d'établissements, hein, entre collège, lycée professionnel, lycée général ou technologique, voyons maintenant, Jean-Marc, comment fonctionne un établissement scolaire, car à ce niveau-là, pour le coup, il y a quand même, on va dire, des acquaintances, des similitudes. Voyons déjà les différentes instances qui œuvrent au bon fonctionnement d'un établissement.
Alors là, c'est simple, parce que en fait, quel que soit l'établissement scolaire, que ce soit un lycée professionnel ou un lycée général technologique ou un collège, ça fonctionne un peu de la même manière. En fait, un lycée, c'est une petite démocratie représentative. Alors concrètement, tu as une instance de décision qu'on appelle conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, les gens ne le savent pas, mais en fait, il est tripartite. C'est-à-dire que tu as des représentants de l'administration, le chef d'établissement, le conseil principal d'éducation et puis les collectivités territoriales. Ça, eux, ils pèsent pour un tiers des voix au conseil d'administration. En nombre de voix, c'est soit 30, soit 24. Hein. Dans les petits collèges, c'est 24 et dans les gros lycées, c'est 30. Après, tu as les représentants du personnel qui pèsent pour un tiers. Eux, ils sont élus par leurs collègues. Mmh. Et puis après, tu as les représentants des élèves et des parents qui pèsent pour un tiers. C'est-à-dire que personne n'a de majorité. Par exemple, moi, en tant que chef d'établissement, quand je présente le budget, si tous les gens qui sont dans mon camp, entre guillemets, votent pour moi, ça fait un tiers.
Un tiers.
Donc, je suis obligé de faire un budget dans lequel
les autres se
reconnaissent.
Aussi,
ouais. Pareil pour les projets d'établissement, les projets pédagogiques. Personne n'a la majorité.
Il n'y a pas de 49-3 ?
Il n'y a pas de 49-3.
D'accord.
C'est une bonne question. Il n'y a pas de 49-3. Le chef d'établissement, quand il y a égalité, il a quand même la voix double.
D'accord.
Il a quand même la voix
double. Mais en cas d'égalité.
Alors, il n'y a pas de 49-3. Mmh. Allez, je vais repréciser un petit peu les choses tout à l'heure.
Il y a un mais quand même.
Il y a un petit mais. Donc tu vois cette instance de décision qui s'appelle le conseil d'administration. Et en fait, tous les travaux du conseil d'administration, c'est-à-dire toutes les décisions, elles sont préparées par deux instances. Une instance qui est qu'on appelle le conseil pédagogique, où là tu réunis les professeurs, le conseil principal d'éducation, et tous les projets à caractère pédagogique et éducatif sont préparés ici. Il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de parents. Pourquoi ? Parce que c'est la pédagogie, et là, c'est l'expertise des professionnels. Et à côté de ce conseil pédagogique, tu as, alors en collège, on appelle ça le conseil de la vie collégienne ou le conseil de la vie lycéenne, où là, on réunit les collégiens et les lycéens sur les questions qui les intéressent. Alors, ça peut être les voyages, ça peut être le cadre de vie, etc. Tu as une petite instance aussi qui s'appelle le conseil, le comité d'éducation, la santé, la citoyenneté et l'environnement, qui peut aider aussi au débat. Mais finalement, c'est assez simple, hein, l'organisation d'un collège. Donc, tu as une pyramide. En haut, le conseil d'administration, c'est vraiment le lieu de la décision, c'est le lieu du pouvoir, pour faire simple. Mmh. Et puis, deux instances. D'un côté, je dirais les professionnels, le conseil pédagogique. De l'autre côté, je dirais les usagers, les élèves, ou les parents réunis dans le comité d'éducation, la santé et la citoyenneté, qui préparent les travaux du conseil d'administration. Donc, c'est vraiment comme une petite démocratie ouais. représentative. Mmh. Alors, dans cette petite démocratie représentative, tu as quelqu'un qui joue un rôle particulier. C'est le chef, d'établissement.
Tu souris parce que toi, tu en es un. Hein.
Oui, je souris parce que j'en suis un. Alors moi, tu sais que j'aime bien porter des casquettes. Et en fait, le chef d'établissement, il a deux casquettes. Mm-hmm. Une première casquette, il est le président du conseil d'administration. Il représente la communauté éducative. Et à ce titre, c'est le pouvoir exécutif, si tu veux. Le législatif, ce serait le conseil d'administration. Et en tant que chef d'établissement, moi, je vais mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration. Même si je ne suis pas d'accord, hein, je suis tenu de les mettre en œuvre. Ça a été voté démocratiquement, donc... le projet d'établissement, le budget, je le mets en œuvre. Et puis après, j'ai une autre casquette, c'est que je suis le représentant de l'État dans, pas l'œil de Moscou, hein, le représentant de l'État dans l'établissement. Et à ce titre-là, j'ai des pouvoirs un peu spécifiques, et en particulier sur, j'ai l'autorité sur l'ensemble des personnels. Mmh. Alors que ce soit les personnels d'État ou bien les personnels territoriaux, mais là, j'agis en quelque sorte par délégation.
Délégation.
C'est-à-dire que j'organise le service des uns et des autres. Mm-hmm. Alors, je suis pas tout seul, hein. Je suis aidé par la gestionnaire. Après, sur la vie scolaire, il y a le conseiller principal d'éducation. Et là, je suis le représentant de l'État. Alors, pour revenir à cette histoire de 49.3, par exemple, ce qui est très important dans un établissement, c'est ce qu'on appelle la répartition des moyens d'enseignement. Chaque établissement a une espèce de dotation globale horaire.
Une enveloppe.
Mm-hmm. Une enveloppe. Et j'avais déjà expliqué ici qu'il y a une petite marge d'autonomie. Donc, tu présentes un projet aux équipes. Alors, en général, on fait des compromis, on s'assure que les enseignants s'y retrouvent un petit peu. Il faut que chacun s'y retrouve.
Et si ils viennent entrer dans les pieds, c'est
mais
pas
si
pareil.
Ça passait pas, s'il y avait une obstruction des enseignants qui ne se reconnaissent pas dans le budget, de cette répartition des moyens d'enseignement, au bout de deux votes, le représentant de l'État prend la main. Pourquoi le représentant de l'État prend la main? Tout simplement parce qu'on n'imagine pas que la rentrée ne soit pas préparée. Tout bêtement. C'est-à-dire, tu vois, c'est un peu le 49-3. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça passe pas, il faut bien
Il faut de toute façon avancer.
Voilà, il faut avancer, il faut que la rentrée soit préparée. Tu peux très bien avoir, ça arrive souvent dans les établissements, des collègues qui ne votent pas la répartition sur laquelle ils ont travaillé, non pas parce qu'ils sont contre la répartition, mais tout simplement parce qu'ils trouvent que le volume horaire alloué par le rectorat ou l'inspection académique est insuffisant. Donc ils votent contre. Non pas pour dire la répartition n'est pas bien, mais tout simplement pour dire c'est insuffisant par rapport aux besoins.
Ouais, voilà. Ouais. Parlons d'ailleurs rapidement des ressources, parce que j'aimerais qu'on consacre quelques minutes à la question qu'est-ce que c'est qu'un bon établissement, mais rapidement, les ressources d'un établissement scolaire aujourd'hui, c'est quoi?
Alors les ressources, en fait, elles sont de deux types. Soit c'est des ressources en heures d'enseignement, c'est la fameuse dotation globale horaire. Chaque année, on a une enveloppe que tu dois répartir pour assurer les enseignements réglementaires. Et puis après, tu fais des choix sur la partie qui reste, ce qu'on appelle la marge d'autonomie. Voilà, c'est du latin, c'est de l'allemand, c'est, je sais pas, des dispositifs spécifiques d'accompagnement des élèves à l'orientation, la chorale, ce que tu veux. Ça dépend du projet d'établissement. Et à côté de ce budget en heures d'enseignement, tu as un budget en euros, en quelque sorte, qui est alloué par la collectivité territoriale, la région pour les lycées, le département pour les collèges. Et là, on a un budget qui nous permet de faire face à nos dépenses de fonctionnement pour entretenir les locaux, l'électricité, le chauffage, etc. Et quand il reste un peu d'argent, il reste toujours un peu d'argent, ça permet de mettre en place des projets éducatifs et pédagogiques, d'acheter du matériel, de soutenir tel projet, un voyage, une sortie, etc.
Et à ce niveau, excuse-moi de te couper, je fais une petite parenthèse parce que toi, la dotation de la collectivité du département, on sait déjà un peu à quoi elle va servir parce qu'on a entendu parler de travaux qui sont envisagés au Collège Valsérou de Cordes là pour dès cet été là.
Alors quand on parle de la dotation, c'est une dotation en termes de fonctionnement. Mm-hmm. Hein, c'est vraiment pour assurer le fonctionnement. En revanche, tout ce qui relève de l'investissement, surtout si c'est des gros travaux, là, ce sont des subventions spécifiques,
d'accord,
des projets spécifiques.
D'accord. Okay.
Là, par exemple, j'en profite parce que je suis heureux de l'annoncer que l'année prochaine, le département va investir plus de 600 000 euros hors taxes. Hein, donc, ça fait une grosse somme pour refaire le dojo. Donc, Donc à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février-mars, ben on va refaire la piste d'athlétisme, le dojo, ce qui fait qu'on va avoir un équipement flambant neuf.
Flambant neuf, oui.
Alors, tu vois, chaque année, il y a un programme d'investissement, ça tourne, hein. C'est pas que le collège de Corbes non plus. Ça tourne entre les différents établissements. Et puis après, tu peux parfois avoir de gros travaux quand on restructure un établissement. Par exemple, moi, quand j'ai dirigé Alban, c'était le cas. Là, on a refait, par exemple, toute l'isolation, puis on a refait la cour, on a fait de gros, très gros travaux. Moi, ce que j'aimerais dire, hein, quand même ici, c'est que parfois, le contribuable, il se pose la question, où va mon argent? J'aimerais dire que ce soit le département ou l'État, on investit beaucoup d'argent dans l'école. Faut pas croire, alors pas que dans l'école, mais en tout cas, on a la chance ici, hein, dans cette belle région de l'Occitanie, où l'éducation, ça reste une priorité pour les collectivités territoriales. Et c'est vrai que nous, le chef d'établissement, on s'en félicite. On a de très bons rapports avec eux. Vraiment, ils sont toujours dans le soutien et ça, c'est vraiment formidable.
Donc, ce sont ces collectivités-là qui vous attribuent
ces
subventions.
Ah oui, elles jouent un rôle formidable.
Ces subventions spécifiques, hein, qui font partie des ressources plurielles que peut avoir un établissement scolaire. Et pour compléter tout cela, il y a des contributions que font des familles directement aussi, que
bien
ce soit
sûr,
pour la restauration.
La restauration, ou... l'hébergement, nous, les internes. Donc, effectivement, les familles paient l'internat. Alors, pour donner un petit ordre de grandeur, par exemple, une année à l'internat au collège de Corbes-sur-Ciel, ça coûte 1500 euros. Ça fait à peu près 100 euros par mois. Mais après, les élèves ont des bourses spécifiques. Ils peuvent avoir aussi une aide à la restauration scolaire, ce qui fait que ça fait descendre vraiment la facture.
La facture pour les familles, quoi.
Et puis, nous, on a la chance aussi d'avoir un fonds social, ce qui fait que quand des familles ont des difficultés, donc on peut utiliser ce fonds social pour aider les familles à payer la restauration scolaire ou leur trimestre d'internat.
On va se remettre rapidement de nos émotions avant de voir comment choisir son établissement, avoir quelques pistes pour choisir le meilleur collège de son département ou le meilleur lycée de sa région. En avance, là, Stromae passera par là pour nous chanter Tous les Mêmes.
Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère, elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
chance au moins d'entendre Stromae sur CFM Radio, à défaut de le voir sur scène en live, qu'il se repose bien et peut-être qu'il nous reviendra encore plus fort. Le carnet de correspondance, là c'était la récré, et là on reprend le cours magistral avec Jean-Marc Robin qui va nous parler. Maintenant, tendez bien les oreilles, hein, comment choisir son établissement, ça va intéresser beaucoup de parents là dans les prochains jours, et en tout cas ça doit même déjà les concerner, hein, pour la prochaine rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'un bon établissement, Jean-Marc? Est-ce qu'il est possible de répondre à cette question?
Alors oui, Jack, il est possible de répondre à cette question, même si la réponse va être complexe. La première chose qu'on peut faire, c'est ce que fait notre institution, et d'ailleurs elle publie les résultats, c'est se pencher sur les statistiques de performance des établissements scolaires, parce que ce qu'attendent les parents et les élèves au premier chef, c'est la réussite scolaire. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour chaque établissement, on mesure la valeur ajoutée. Donc tu peux t'appuyer soit sur les résultats bruts aux examens, au diplôme du brevet, au bac professionnel, au bac technologique, ou bien tu peux t'interroger, c'est peut-être plus pertinent, sur la différence entre les résultats qu'aurait dû avoir l'établissement compte tenu de la composition sociale de des élèves.
Des effectifs, hein. Oui.
Voilà, c'est-à-dire qu'on sait que les élèves de milieu où les parents ont fait des études supérieures poussées, ils sont un peu plus adaptés à la performance scolaire et réussissent un petit peu mieux.
Lycée Louis-le-Grand à Paris, par exemple.
Par exemple, ouais. Mais pas que. Mmh. Donc, et là, on va mesurer la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'écart entre la performance attendue et la performance réelle de l'établissement. Donc concrètement, si ta performance à la fin de l'année elle est supérieure à la performance attendue, il y a un effet établissement, c'est-à-dire que l'établissement s'organise bien, prépare bien les élèves, la qualité de l'enseignement y est bonne, hein, pour faire simple. Alors après, il faut faire attention parce que ça peut varier d'une année à l'autre. Il faut regarder ce qu'on appelle en économie le trend, c'est-à-dire la tendance, hein, parce que tu peux avoir une chute sur une année, une reprise sur une autre année, il peut y avoir des effets de cohorte. Donc c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Après, si tu prends par exemple les lycées professionnels, eux, ils sont évalués sur deux indicateurs, on l'a dit tout à l'heure, la réussite aux examens et puis aussi l'insertion professionnelle des jeunes. C'est-à-dire qu'on fait une enquête qui s'appelle Insert Jeunes et qui va examiner ce que deviennent les jeunes 6 mois, 1 an plus tard. Est-ce qu'ils ont trouvé du boulot assez facilement, etc. Donc ça, on sait qu'il y a des lycées qui, en fonction des formations, puis en fonction de la qualité de l'enseignement reçu, de l'adaptation aussi, vont trouver du boulot plus facilement. Donc ça, c'est l'approche très statistique. Alors après, tu peux avoir une autre approche. Alors moi, je m'étais amusé à le faire dans un petit article. Hein. Une approche, je dirais, plus ethnographique, c'est-à-dire basée sur le regard, c'est plus sur le qualitatif, en essayant de percevoir des petits signaux faibles.
Du genre?
Du genre, par exemple. Alors moi, j'avais distingué 3 types d'établissements. Alors, des établissements qui dysfonctionnent, des établissements qui ronronnent et des établissements qui se projettent. Les établissements qui dysfonctionnent, par exemple, ça peut se voir tout de suite. C'est-à-dire que tu rentres dans l'établissement, c'est sale. C'est-à-dire que les papiers sont par terre, ou bien tu rentres, il n'y a personne qui t'accueille. Mmh. Ou tu sens que personne travaille ensemble, il n'y a pas de travail d'équipe. Par exemple, la vie scolaire reste dans son coin, la direction dans l'autre, les uns et les autres sont pas
de cohésion.
Pas de cohésion. Ouais, donc ouais, tu peux le voir par rapport à ça. Puis il n'y a pas beaucoup de projets, il n'y a pas beaucoup de sorties. Tu sens qu'il n'y a pas d'envie, quoi. Et donc tu vois le dysfonctionnement, tu peux le voir déjà au climat d'établissement. C'est-à-dire, moi, je dis que... En fait, quand tu es un peu observateur, tu peux voir assez rapidement les établissements qui dysfonctionnent. C'est-à-dire que moi, je dirais qu'un établissement qui n'a pas le souci permanent d'améliorer le cadre de vie pour les élèves et les équipes, c'est un établissement qui dysfonctionne. Des papiers sales, c'est pas normal.
C'est pas normal dans un collège, établissement qui est censé...
Un collège, un lycée, ça doit être propre. Voilà. Alors, tu peux avoir, à un moment donné, 2-3 collègues absents, et puis voilà, quelques papiers qui traînent par terre, tu vois. Mais dans la durée, si l'établissement est sale, c'est qu'il y a un gros problème. Donc, il y a un problème de management, il y a un problème de direction. T'imagines que si on s'occupe pas beaucoup des locaux... On va pas beaucoup s'occuper des élèves. Hein. Tu peux transférer
donc
ça.
Donc ton conseil, c'est de dire déjà aux parents, rendez-vous dans les établissements qui vous intéressent.
Je pense que c'est les journées portes ouvertes, c'est très important. Parce que déjà, tu peux t'apercevoir la qualité de l'accueil. Tu peux aussi rencontrer les équipes. Tu peux voir si l'établissement est bien entretenu. Tu peux discuter avec les gens. Nous, on a fait une matinée porte ouverte et je peux te dire que les gens étaient très sensibles au fait que les équipes répondent aux questions, le fait qu'on les prenne en main, qu'il y avait un vrai accueil. Parce que tu te dis... Si t'es bien accueilli pour une matinée porte ouverte, ils vont quand même tenir leur promesse quelque part. Alors, c'est pas que de la com', hein, les journées porte ouverte. Ça dit quelque chose. Hein, ça dit quelque chose. Donc, tu as déjà ça. Donc, les établissements qui dysfonctionnent, moi, je dirais déjà, ça se voit un petit peu sur le plan matériel. Après, les établissements qui ronronnent, c'est des établissements concrètement où... alors, ça dépend des profits des établissements, mais concrètement, on fait un peu toujours la même chose, quoi. Le projet d'établissement, il n'a pas changé. C'est toujours un peu le même. Et puis, on ronronne bien. Alors, ce n'est pas de mauvais établissements. C'est des établissements qui sont un peu bureaucratiques. On a toujours fait ça. Hein, et on le fait parfois pas trop mal. Ça ronronne. Pas trop d'innovation, pas trop de projets, une communication un petit peu ronronnante. Bon, voilà, tu as l'établissement qui ronronne. Je dirais peut-être que c'est la majorité des établissements. Hein. Ceux qui sont dysfonctionnels sont plutôt rares. Hein. J'aimerais rassurer les parents, ils sont plutôt rares. Hein. Et puis parfois, y a une reprise en main qui se fait. Hein. On change l'équipe de direction, par exemple, pour améliorer les choses. Mmh. Et enfin, tu as les établissements qui se projettent. Alors ceux-là, ils sont peut-être moins nombreux. Alors là, c'est vraiment le travail en équipe est très développé. Et là, tu sens que ça match, c'est-à-dire que les équipes travaillent ensemble, il n'y a pas ce cloisonnement entre la vie scolaire et les enseignants, les gens se soutiennent, les gens répondent présents, les professeurs principaux font du bon boulot, ils sont en contact des familles, t'es bien accueilli, il y a des projets, je dirais, dans tous les sens. Et là, tu sens qu'il y a une espèce d'énergie quoi dans l'établissement. Alors ça, tu peux pas l'observer tout de suite, hein, parce que cette énergie-là... tu peux l'observer que quand tu y es.
C'est la continuité, voilà. Ouais.
Je veux dire, c'est pas en regardant le site du collège, tu peux te dire, tiens, il y a de belles photos, donc il y a de beaux projets. Ça peut être un indicateur, mais c'est pas la garantie du succès. Mais voilà, c'est quand il y a cette volonté de souder la communauté scolaire, d'être attentif à tout, les résultats, le climat scolaire, le bien-être des élèves. Ça, c'est. Et puis surtout, il y a une direction dans le sens où il y a un cap. On sait ce qu'on veut faire, quoi. Alors après, chaque établissement peut avoir des projets différents. Hein. Tu as des établissements qui excellent dans la formation d'une élite, par exemple. Mmh. Des établissements qui excellent dans le fait de s'occuper de tout le monde. Hein, chaque établissement peut avoir des objectifs très différents.
Mais ça donne quand même une très bonne idée, hein, Jean-Marc. Donc cette approche ethnographique, là, rapidement sur l'approche maintenant réputationnelle, c'est ainsi que tu qualifies la troisième voie pour choisir.
Et malheureusement, ça c'est l'approche souvent qui est utilisée par les parents, c'est le on dit. Moi, je déconseille cette approche-là parce que le on dit, mais qui parle? Je veux dire, mon voisin.
Et est-ce que c'est adapté à aussi?
Oui, alors le on dit, c'est moi je connais les professeurs, j'ai regardé les réseaux sociaux, le sentiment de sécurité. Donc tu vois, par exemple, tu vas avoir des parents qui vont se dire oh là là, dans ce collège il y a beaucoup d'enfants d'issue de l'immigration, donc conclusion, c'est pas un bon collège, le niveau va être tiré par le bas, il y aura un sentiment d'insécurité. Et moi je dis c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que peut-être qu'il y a effectivement un peu plus qu'ailleurs des enfants issus d'immigration, mais tu as un projet pédagogique formidable, par exemple, et des équipes extraordinaires. Donc, il faut faire attention à ça. Hein. Et le sentiment de sécurité, ce n'est pas la sécurité. Hein, parce que les gens peuvent avoir un sentiment d'insécurité, et en fait, deux, trois incidents, et on te dit, dans ce collège, dans ce lycée, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce n'est pas la vie que vivent les gens tous les jours. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Moi, je dirais, si j'avais un conseil à donner aux parents, c'est on ne peut pas éviter l'effet réputationnel, hein, ça c'est clair, parce que les établissements ont une histoire et puis parce que les gens parlent, mais d'essayer de se pencher sur les indicateurs tout à fait objectifs, hein, puisque maintenant le ministère publie les indicateurs de réussite, il faut se pencher dessus. On va sur le site du ministère et on regarde ça. Et puis après, effectivement, tous ces contacts avec les équipes, ces journées portes ouvertes, ça me semble très important. Il ne faut pas hésiter aussi à contacter le chef d'établissement pour qu'il puisse parler du projet qui est le sien, etc. Donc,
oui, parce que là, on parle là comme ça, comme si on a à chaque fois beaucoup de choix, mais parfois, on n'a pas trop le choix. Je veux dire, nous, en zone rurale, ici, on n'a pas énormément de choix pour choisir le collège, le lycée.
Alors, bien sûr, hein, on est toujours dans ce qu'on appelle la sectorisation, c'est-à-dire que tu dois rejoindre le collège public de ton choix. Après, n'oublie pas quand même l'enseignement privé. C'est-à-dire que l'enseignement privé, tu choisis ton établissement. Si tu ne veux pas rejoindre le collège public de ton choix, tu peux. Alors après, il faut peut-être faire un peu preuve de mobilité. Hein. Tu peux rejoindre l'établissement privé ou un autre établissement et demander des dérogations. Ça, c'est possible.
Et c'est plus cher.
Alors, le privé, c'est plus cher. Après, tu peux aussi demander par dérogation des établissements publics. Et tu sais, Nicolas Sarkozy a assoupli ça. C'est-à-dire que les parents peuvent aujourd'hui demander des dérogations. Et l'institution, je ne dis pas qu'elle encourage ça, ça, c'est pas vrai. Mais en tout cas, elle a ouvert les portes à ça. Simplement, maintenant, il y a des priorités dans les demandes de dérogation. C'est-à-dire que, par exemple, les élèves boursiers, les élèves qui ont un frère ou une sœur dans l'établissement, les élèves qui ont par exemple une maladie, vont être un peu prioritaires. Mmh. Il y a des priorités quand même, hein. On est un peu encore en République. Mais nous, les chefs d'établissement, on a bien conscience aujourd'hui que c'est fini le temps où tu avais un public captif. Voilà, c'est terminé. Quand les parents ne sont pas contents, ils ont deux façons d'exprimer leur mécontentement. Soit ils te le disent, hein, ils prennent la parole, c'est ce qu'on appelle dans le mécanisme en sociologie la voice. Soit eh ben, ils votent avec leurs pieds, ils changent d'établissement. Donc ça, c'est la réalité de ce qui se passe en France quand même. Hein. On est sur un système qui est aussi presque un quasi-marché. Alors évidemment, c'est plus vrai en zone urbaine parce que tu as beaucoup d'établissements. En zone rurale, c'est un peu plus compliqué parce que tu as les distances. Mais oui, on rentre quand même dans une économie du choix de l'établissement. Hein, quand même, hein. faut pas croire. Moi, je vois bien les élèves du collège de Cordes. Ils font, après la classe de 3e, de vrais choix d'établissement. Mmh, hein, ils choisissent vraiment leur établissement.
Ils veulent pas aller n'importe où.
Alors après, ils sont parfois très contents de rejoindre le lycée de secteur, hein, mais parfois, ils font d'autres choix, l'enseignement privé. Après, s'agissant de lycée professionnel, bah, tu fais le choix en fonction de la formation. Si tu veux faire l'agriculture, tu
vas c'est ça, ouais, ouais. Non seulement la formation, mais aussi les options qui sont proposées par-ci, par-là, parce que ça aussi, stimulant, c'est motivant, en tout cas, dans un premier temps. Alors, le carnet de correspondance, il a bien débordé aujourd'hui, mais le sujet était pertinent à développer un peu plus, parce que c'est aujourd'hui une question qu'on se pose beaucoup, et on le voit d'ailleurs, on n'a jamais autant parlé d'éducation nationale dans les infos que ces dernières années. On va conclure peut-être sur le sujet, Jean-Marc, si tu veux bien, sur l'établissement scolaire.
Oui, pour conclure, pour nuancer un peu ce que je viens de dire aussi, c'est-à-dire que les parents considèrent que l'établissement, c'est très important. Ils ont raison, en sociologie, on parle d'effet établissement, c'est-à-dire les établissements ne se valent pas, en fait, concrètement, soit en termes de performance, soit en termes de projet pédagogique. Mais ce n'est pas le principal effet qui impacte la réussite des élèves. Le principal effet, il faut toujours le rappeler, c'est l'effet maître, l'effet professeur. C'est-à-dire que ce qui compte vraiment, au-delà de l'établissement, c'est qu'en face de toi, tu as une équipe pédagogique expérimentée, solide. Ce n'est pas tellement les bâtiments, la direction, c'est vraiment ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la classe, la pédagogie mise en œuvre, le souci des élèves. Et donc, tu peux avoir des élèves, des lycées qui ne payent pas de mine, des collèges qui ne payent pas de mine, et avec une super équipe qui fait un super bon boulot. Donc, c'est vraiment le cœur de la réussite, c'est dans la classe. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important que les professeurs soient reconnus et que nous, on attire, entre guillemets, des talents, des gens qui veulent venir enseigner pour de bonnes raisons. Et c'est très important aussi de maintenir la formation continue. Alors, donc, tu as, dans la réussite des élèves, pour faire simple, quand elle ne dépend pas des parents, tu as l'effet professeur, ce qu'on appelle l'effet maître. Et après, on ne l'oublie pas non plus, tu as l'effet classe. C'est-à-dire que dans le même établissement, mais tous les chefs d'établissement et tous les parents font cette expérience-là, tiens, cette année, il est dans une classe qui n'est pas très bonne. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que la classe, il y a la mayonnaise qui ne prend pas. Alors parfois, les écarts sont, attention, hein, minimes. Hein. Moi, je regarde dans des classes qui fonctionnent bien, des classes qui fonctionnent moins bien. Parfois, tu as un demi-point de moyenne ou un point. Mais tu as un sentiment, et les professeurs l'ont aussi parfois, que tu peux bien travailler dans cette classe-là. Et parfois, dans une autre classe, tu ne peux pas bien travailler. Et en fait, on ne sait pas trop pourquoi. C'est une question d'alchimie ouais. Entre les élèves et entre les élèves et l'équipe pédagogique. Moi, c'est une expérience que j'ai faite aussi quand j'étais enseignant, c'est-à-dire que tu arrives avec le même cours, la même volonté, et puis des fois ça matche, des fois ça matche pas. Ça montre bien que l'enseignement, ça reste de l'humain, quoi, tout simplement.
Le carnet de correspondance sur CFM Radio. Voilà la conclusion sur cette émission qui nous a intéressés aux établissements scolaires. Si vous l'avez pris en cours de route, vous pouvez avoir la séance de rattrapage via le site internet cfmradio.fr, mais aussi le site internet dédié à cette émission, c'est carnetdecorrespondance.fr, qui a été mis en place par notre ami Jean-Marc, qui, vous l'avez compris, s'intéresse énormément aux questions en lien avec la sociologie de l'éducation, de l'enseignement aussi. On a plus ou moins conclu sur l'importance des professeurs Jean-Marc, et on va le dire, ouvrir un peu nos coulisses aux auditeurs. On prépare depuis plusieurs semaines déjà une émission vraiment sur le métier de professeur, un métier qui est en manque un peu d'attractivité. Mais bon, on attend aussi que le gouvernement abatte ses cartes pour pouvoir finaliser la préparation de cette émission.
Oui, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer, et donc c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu de temps pour pouvoir en parler, parce qu'il y a des annonces qui sont importantes qui vont arriver là.
On va le faire sur ce métier d'enseignant et sur les métiers aussi de chef d'établissement.
Absolument.
Dont tu occupes cette fonction, là, on l'a bien compris. Hein. C'est pas toujours simple, mais il en faut bien. Il en faut bien.
Mais c'est un beau métier quand même. Franchement, c'est un très beau métier. Mais si on n'est pas passionné par l'école, faut pas faire ce métier parce que c'est un métier très prenant, quoi.
Allez, ben, soyez là pour les prochains numéros du carnet de correspondance parce que Jean-Marc aura la lourde tâche de nous le vendre, de nous intéresser vraiment.
Ah oui.
À ces métiers-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur CFM Radio. Merci Jean-Marc d'être venu en
Merci
studio.
Jacques.
On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur CFM Radio pour un autre carnet de correspondance. Et c'est la récré. Salut tout le monde.